Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Débat entre 11h et midi avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 pour commenter l'actualité aujourd'hui. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise AB Bonjour. Consulting. Bonjour. Mathieu Cheng, directeur associé BVA Pôle Conseil, Bonjour. Cofondateur de Délit d'Opinion. Vous avez publié La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées. C'est paru aux éditions du Rocher. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Pouch, le média franc-tireur, et Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour, vous êtes policier bonjour et membre de l'ACPJ, l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Ça tombe bien parce qu'on va un petit peu parler de la police aujourd'hui, avec l'acte 45. Irez-vous manifester 0826 300 300 Est-ce que on peut attendre une mobilisation plus importante? En tout cas, il y a des appels qui ont été lancés un petit peu partout. Et puis, est-ce qu'il y a encore une fois des dangers et la police il faut éteindre vos téléphones portables. La police va-t-elle être mobilisée sur le coup? L'État veut accompagner les 1000 premiers jours des enfants. Stop à l'État nounou, je vous en parlais hier. On va y revenir. Et puis Mélenchon qui dévisse dans l'opinion. Là aussi, on attend vos réactions. Coup de gueule, coup de cœur. Alexis, c'est un coup de cœur?
Oui. Oui. C'est un coup de cœur, Valérie. Je pensais à vous.
Oui, pensez à moi.
En réfléchissant à ce coup de cœur, et je me suis dit qu'il fallait qu'on dise à quel point aujourd'hui on était en train de vivre une transition importante dans les mobilités, les déplacements. Alors, beaucoup à Paris, mais en réalité dans toutes les grandes agglomérations, c'est que le vélo est en train d'occuper une place de plus en plus importante. Et il faut remercier les élus de toute tendance qui ont le courage de faire des pistes cyclables, parfois sous les lazzis, sous les critiques, subir peut-être un moment d'impopularité. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. C'est spectaculaire à Paris. On le voit avec la fréquentation très élevée des pistes cyclables.
Surtout à minuit et demi, quand il y a des embouteillages pour traverser Paris à 1h du matin et qu'il n'y a pas un vélo qui circule.
Ça dit beaucoup.
Je vous taquine.
Bien sûr, Valérie, mais il y a encore des quelques pôles de résistance. Mais vous verrez, dans 10 ans, les gens se diront, mais comment ça se fait qu'on n'avait pas fait ça avant, qu'on n'avait pas réouvert les berges de Seine, qu'on n'avait pas fait toutes ces pistes cyclables pour permettre aux gens de circuler dans d'autres conditions.
Vous êtes venu en vélo,
Alexis ? Hâte. Non, mais je repartirai sûrement en trottinette. Parce que je viens en transport, mais après je repars souvent en trottinette puisque j'aime bien promener en trottinette à Paris. Et puis surtout, il y a des espaces pour circuler maintenant, c'est plus facile. On utilise les pistes cyclables. Et moi, j'ai hâte, puisque j'habite en banlieue, qu'on ait un réseau à l'échelle de l'agglomération parisienne qui fera qu'effectivement, progressivement, de plus en plus de gens. En plus, il y a tout le free-floating. On peut emprunter maintenant très facilement des vélos, des trottinettes, etc. Donc, il faut aller vers cette mobilité douce, à la fois pour des raisons de climat, de pollution, mais aussi, tout simplement, ça fait du bien pour la santé. Enfin, il n'y a que des bonnes raisons d'y aller, quoi. Voilà.
Il y a une éco-responsabilité.
Je suis d'accord. Moi, je peux être la ronchon de service, c'est-à-dire des blessés, des morts.
Oui, mais pourquoi
une circulation qui n'est pas tellement apaisée avec des gens qui se comportent très, très mal en vélo, avec des sens de circulation.
Et en voiture.
Et en voiture,
parce qu'il y a plus de morts. Enfin, pardon, mais il y a que les vélos, ils payent un lourd tribut.
Oui, mais la faute à qui?
Il n'y a pas de cycliste qui tue un automobiliste. Par contre, il y a des automobilistes qui tuent les cyclistes.
Vous ne pouvez pas dire ça, mais franchement, vous voyez le comportement de certaines personnes irresponsables en trottinette avec des enfants. Mais s'ils meurent, c'est de leur. Enfin, c'est aussi. Je dis que c'est. On ne peut pas savoir. Pas dans tous les cas. Mais il y a des comportements qui sont inciviques, totalement inciviques.
Il y a beaucoup de chauffards et ça crée.
La jeune femme qui est morte devant l'Assemblée nationale en vélo, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute du camion. Sauf qu'un vélo face à un camion, ça ne fait pas le poids aujourd'hui dans les grandes villes. Donc, effectivement, rendons toutes les métropoles uniquement à vélo. Moi, je veux bien. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais bien prendre un vélo. J'ai peur.
Valérie, dans les agglomérations, dans les villes, il y a des villes au Danemark, à Amsterdam, où il y a des circulations totalement sécurisées et il y a très peu d'accidents.
Les Danois ne sont pas les Français.
La transition est faite et les pratiques, les cyclistes.
En Italie, c'est comment, Matteo ?
C'est pire, ouais. Absolument. Mais personnellement, je suis très critique, surtout à Paris, pour les dépenses d'argent public inutiles pour construire des pistes cyclables sur des trajets où il y avait déjà des pistes cyclables. Et je suis très contraire, tout simplement parce que d'un côté, alors comme vous dites justement, le code de la route vaut pour tout le monde, donc chauffards, cyclistes, même les piétons. Mais je trouve que il y a des endroits où les cyclistes, ayant cette autoroute inutile qui a coûté de l'argent public et qui a supprimé des voies de circulation qui augmentent les queues et donc la pollution, ils se sentent autorisés à tout faire. Donc si on est en train de traverser sur un passage piéton, on s'est fait insulter. Et il y a aussi des personnes âgées qui ne peuvent pas avoir la vitesse pour traverser jusqu'au vert, pendant le vert au feu. Il y a des enfants. Enfin, moi, je le vois très critique. Et puis, j'invite à réfléchir sur une chose. Très bien, élargir les trottoirs qui désormais sont devenus des pistes d'atterrissage des avions. Mais c'est très, très, très... populiste de faire cette politique, parce que maintenant on se rend compte qu'on a besoin de plusieurs voies, moyens de transport alternatifs, parmi lesquels il y a les trottinettes, sauf qu'on a des routes qui se sont rétrécies de façon monstrueuse, et on permet d'ailleurs aussi la circulation en sens inverse dans certaines petites ruelles parisiennes. Oui, le résultat, c'est qu'on augmente la dangerosité, et alors que si on avait des routes un peu plus larges, tout le monde pourrait circuler, encore une fois. Bien sûr, les chauffards sont les premiers à être responsables de la circulation, mais aussi les chauffeurs de vélos,
trottinettes.
Allez, un mot,
Mathieu? Non, mais juste un mot. Moi, je pense que tout ce qui est excessif et dogmatique est inutile et vain et contre-productif. En l'occurrence, je pense que le problème de la mairie de Paris est d'avoir fait... des vélos, le contre-voiture, la mobilité douce, c'est d'utiliser toutes les mobilités de façon complémentaire, en prenant conscience que tous les gens ne pourront pas faire du vélo. Il y a des personnes âgées. Qu'il y a des familles qui quittent aujourd'hui Paris. Et moi, ce que je reproche très fortement, c'est une politique...
Pas à cause du vélo, quand même.
Est-ce que c'est une politique qui est un petit peu dictatoriale et qui dit maintenant tout le monde en vélo. Ouais. Et quand vous... confronter ça à la réalité des gens dans leur quotidien, des gens qui vont amener les enfants aux écoles, des gens qui sont âgés, des gens qui ont 50 ans, qui doivent faire... des personnes qui sont handicapées, qu'on dit le mythe de Paris, demain tout le monde sera en vélo. Je trouve que c'est, pour les gens qui nous écoutent et pour les Parisiens qui écoutent, il y a un côté qui est totalement hors sol. En fait, le problème, c'est que quand c'est fait de manière dogmatique et quand on dit on va supprimer la voiture pour mettre tout le monde à vélo, moi je pense qu'en réalité il y a une politique qui est dogmatique. Voilà.
Ouais. Abdoulaye, vous avez un avis sur la question ?
Disons que je pense que maintenant la mairie de Paris a décidé dans les années à venir à supprimer totalement la voiture au sein de la capitale. Mais après, qu'est-ce qu'il en est de l'aspect sécurité ? Parce que quand je vois évidemment malheureusement des drames que nous avons, c'est-à-dire des accidents de trottinette, parce qu'aujourd'hui la trottinette est devenue un gros problème. Donc vous avez des personnes qui roulent sans casque à des vitesses, on va dire hors normes, mais qui privilégient, on va dire, l'accident. Mmh. C'est-à-dire que vous avez en plus de ça des personnes qui sont irresponsables, des chauffards qui vont aller dans le tas face à des personnes qui sont pas forcément protégées. Et du coup, cette espèce de surmobilité, on va dire, que la mairie de Paris veut imposer, peut-être aussi met à côté l'aspect sécurité. Ouais. Donc,
je pense qu'on ne mettra pas tout le monde d'accord. On fera un débat sur le sujet. Pierre vous dit, Alexis, au Danemark, quand un député ou un ministre a un problème avec la police, il démissionne. À prendre exemple et le faire pour tous. Donc, quand on prend l'exemple du Danemark, il faudrait le prendre pour tous les secteurs de la vie.
Moi, je n'ai pas de problème avec ça.
On
peut parler de Balkany et des autres, si vous voulez.
Et de Richard Ferrand. Par exemple, qui est toujours président de l'Assemblée nationale. Mathieu, vous aviez
un coup de cœur. Est-ce que c'est la fin des pensions alimentaires impayées? Et les pensions alimentaires impayées sont un véritable drame. 500 000 enfants qui sont touchés indirectement. 30 à 50% des pensions alimentaires qui sont pas totalement payées ou pas payées du tout. Et le gouvernement a fait une proposition qui va véritablement dans le bon sens. Ils vont donner le pouvoir aux CAF de jouer un rôle de tiers de confiance pour les parents pour le moment qui seront volontaires. En quoi ça consiste ? Très simplement, les parents qui le voudront se verront prélever directement par la CAF et la CAF redonnera l'argent à l'un des deux parents qui est censé le recevoir. Et l'autre point extrêmement positif, c'est que du coup, la CAF va pouvoir aller prélever chez les mauvais payeurs l'argent, soit chez l'employeur, soit dans la banque.
Est-ce que ça va être concret et effectif ? C'est la question.
Normalement, c'est censé être effectif. Normalement, ils sont censés avoir des moyens supplémentaires, notamment pour aller récupérer l'argent. Notamment avec un organisme qui va être doté de moyens beaucoup plus conséquents. Et aujourd'hui, je pense que c'était un angle mort de la politique publique. On sait que c'est au sein des familles monoparentales à 80% composées des femmes que se situe la plus grande précarité. Beaucoup de ces familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et les femmes pouvaient se retrouver démunies. Entre parenthèses, c'est une des causes des gilets jaunes. Ouais. Et on a retrouvé beaucoup de gilets jaunes, parmi les gilets jaunes, de femmes qui étaient des mères courage, qui devaient gérer un emploi du temps extrêmement compliqué, qui doivent par ailleurs gérer avec souvent des salaires moins élevés que les hommes, et qui par ailleurs étaient extrêmement tributaires de pensions alimentaires pas payées ou pas payées dans sa totalité.
Donc concrètement, je pense que ça va se passer quoi pour des femmes dont
à partir de juin 2021, ce que j'ai compris, ouais, c'est que la CAF va se proposer d'être le tiers de confiance. Alors, il faudrait pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, qu'il y ait l'accord des deux parents, mais elle pourra du coup prélever.
Celui qui paye pas.
Oui, mais sur le principe, ça pourrait être décidé aussi par le juge. Et à ce moment-là, il y a la CAF qui pourra aller prélever directement l'argent au sein de l'employeur ou de la banque. Et je pense que ça peut simplifier beaucoup la donne.
Mathéo, votre coup de gueule ?
Alors, je suis un peu scandalisé parce qu'en France, on continue sans problème à faire du boycott d'Israël, une cause politique, une cause de rassemblement, et je suis complètement choqué d'avoir lu aussi que encore pas plus tard qu'il y a quelques jours à la fête de l'UMA, il y avait un grand stand de boycott Israël, etc. Alors il faut toujours se rappeler que Israël est le seul pays au monde contre lequel un autre pays un autre pays au monde, c'est-à-dire l'Iran, a promis la destruction, la disparition de cartes géographiques. Donc, il faut aussi toujours se rappeler que les Palestiniens qui habitent dans les territoires sont souvent en otage, pris en otage par les terroristes du Hamas, Hezbollah et tout ce que vous voulez, qui sont de groupes terroristes, désolé de rappeler, mais c'est comme ça. Et je pense que les Palestiniens qui vivent dans ces situations savent parfaitement qui est leur bourreau. C'est pas, je pense, toujours le cas dans d'autres pays du monde. Donc, moi, j'ai...
Je crois que vous y avez été en Palestine ?
Oui.
D'accord. Bon.
On ne va pas faire le débat, je pense que c'est un débat...
Déjà, il faudrait distinguer la situation de Gaza et de la Cisjordanie. Ouais. Ce que vous dites sur l'emprise des groupes terroristes, ça vaut plus pour Gaza que pour la Cisjordanie, sauf si vous considérez que l'autorité palestinienne est une autorité terroriste,
disons que
financée par l'ONU, par l'Union européenne et par la France. Il faudrait peut-être faire un petit peu dans la nuance quand même.
Dans les écoles palestiniennes, on sanctifie, on glorifie les martyrs et ceux qui se sont fait exploser dans les bus des civils à Jérusalem ou dans d'autres villes israéliennes, et on dédie, on attribue les noms des anciens terroristes à des rues ou des places. Donc c'est pas...
Et vous savez qu'il y a des colons israéliens qui ont brûlé des familles palestiniennes. Vous êtes au courant de ça ?
Vous avez su que...
Il y a eu des attentats dans les deux sens.
Je pense que là, c'est un débat.
Je ne sais pas si vous le savez, parce qu'il faut être un tout petit peu équilibré. Non, mais brûler une famille dans sa maison,
vous trouvez ça bien ? En France, on crie mort aux juifs.
Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis qu'il faut équilibrer le propos en disant qu'il y a des problèmes des deux côtés et des violences.
Je nie pas qu'il y a des problèmes des deux côtés, mais je rappelle tout simplement qu'il y a des organisations Israël. Terroristes qui sont en train de faire mourir de faim des gens de leur côté et qu'on accuse Israël de
tirer dans la foule.
C'est des gens qui sont payés pour aller contester et tuer des soldats.
Allez, on marque une pause pour un petit peu calmer les esprits. On se retrouve avec votre coup de cœur, Abdoulaye, dans un instant, et mon coup de gueule à moi sur le professeur Joyeux qui pratiquait dans une abbaye des essais cliniques sauvages, celui qui est le fer de lance des anti-vaccins. J'espère arriver à vous convaincre, ceux qui sont anti-vaccins, que parfois ceux qui vous guident ne sont pas forcément les bonnes personnes. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité et on va écouter Abdoulaye Kant avec son coup de cœur.
Ben, une fois n'est pas coutume, donc je vais parler d'une initiative qui est, je pense, très très bien, très intéressante. C'est le Clean Challenge. Le Clean Challenge, c'est quoi ? C'est « Ma cité va briller ». C'est une initiative qui est arrivée, je pense, fin août, notamment dans les banlieues. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on parle toujours des banlieues, des problèmes de sécurité, de problèmes de délinquance, etc. Et là, je veux parler de quelque chose de positif, c'est-à-dire « Ma cité va briller ». Ce sont des jeunes qui ont balancé un hashtag sur les réseaux sociaux, qui ont décidé de prendre en main leur quartier, c'est-à-dire les halls d'immeubles qui sont délabrés, qui sont, j'ai envie de dire, dégoûtants par cause d'incivilités récurrentes. Et là, du coup, ils se sont dit bah, « Tiens, pourquoi pas, on ferait une espèce de compétition de nettoyage de nos cités ». Et je trouve que quand même c'est quelque chose dont on n'en parle pas beaucoup parce que la banlieue, malheureusement, on en parle souvent des actions, on va dire un peu désolantes, donc des contrôles de police qui se passent mal, des problèmes de stupéfiants.
Des incivilités.
Donc justement, je trouve que ceux qui ont lancé justement cette initiative, je pense que franchement, on doit leur rendre hommage aujourd'hui. Mmh. Et je pense aussi qu'il faut en parler un peu plus.
En parler et dire qu'il y a des initiatives comme celle-là.
Il y a des initiatives.
C'est parti de Garges-lès-Gonesse.
C'est Garges-lès-Gonesse, c'est ça.
Et ma commune, Colombes, a fait partie aussi des villes pionnières. Colombes a enchaîné, après ça s'est déployé. Et ça continue d'ailleurs. À Colombes, il y a une action samedi.
Justement, je pense qu'il faut en parler un peu plus.
Qui est en tête de cette...
Il y a une espèce de tournoi, donc je n'ai pas encore trop suivi, mais je sais que justement, je réalise...
C'est les jeunes d'un quartier qui disent « Cette semaine, on nettoie notre quartier, venez nous aider, nous on va s'y mettre, ils prennent des gants. »
Et ça fonctionne.
Ils y vont. Il y a du monde et ça marche. Et bon, c'est une façon aussi d'essayer de sensibiliser les habitants dans un quartier.
Je dirais même de
responsabiliser. C'est votre quartier, c'est vous qui en êtes responsable.
C'est ça.
Quand vous jetez des poubelles, quand vous jetez vos poubelles par la fenêtre, quand vous mettez des canettes, quand des bouteilles, des mégots, y a des gens derrière qui ramassent. Sinon, le quartier il est pourri.
Parce qu'aujourd'hui, on doit voir aussi qu'il y a énormément d'incivilités et que justement les municipalités.
Mais ce qui est bien, c'est que ça vient
malheureusement,
des jeunes.
Ça vient des jeunes qui font la parce que ça responsabilise et je trouve que c'est bien. Donc du coup, je lance un appel au Clean Challenge sur toute la France, sur tous les quartiers.
Allez-y. Coup de gueule, le professeur Henri Joyeux qui pratiquait dans une abbaye des essais cliniques sauvages sur 350 malades. Ça ressemble un peu à un film d'horreur, science-fiction, des tests qui ont été faits sur des malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. De façon totalement illégale, donc dans une abbaye. Le professeur Joyeux, il faut savoir qu'il a été radié de l'ordre des médecins, il a fait appel, il y a un procès qui est en cours, il doit être rejugé, il faut dire qu'il stigmatise les homosexuels, les séropositifs, il est contre l'avortement, il dit qu'on peut attraper le sida en s'embrassant, que les préservatifs ne servent à rien parce qu'ils sont poreux. Il a eu une tribune extraordinaire un jour dans une émission de Michel Drucker, puisque c'est l'icône de Sophie Marceau qui dit qu'elle n'écoute que sa maman et le professeur Joyeux, et il est entre autres contre les vaccins, pour différentes raisons. Bref, une crédibilité médicale pour le moins douteuse. Et ces tests-là sont absolument hallucinants. Qu'il fasse des tests, c'est interdit, évidemment. Mais en plus, ce qui est proprement scandaleux, c'est qu'il a dit à ses patients d'arrêter leur traitement. C'est-à-dire que des gens qui avaient des traitements ont arrêté pour recevoir des patchs. Donc voilà, donc Agnès Buzyn s'est évidemment déclarée abasourdie complètement. Mais je trouve ça hallucinant. Et donc ce monsieur est suivi par beaucoup de gens qui lui font confiance, qui écoutent ce qu'il dit, en particulier sur les vaccins. Allez lire un petit peu sur les réseaux ce qui se dit sur lui, par la communauté scientifique. Je sais que je ne convaincrai pas ceux qui sont anti-vaccins parce que vous allez me dire que c'est un complot et que c'est l'industrie pharmaceutique, mais ce monsieur est dangereux.
Sans doute faire des essais sur des malades, d'ailleurs des pathologies qui peuvent affaiblir de façon intense la capacité de décider, c'est quelque chose de très grave et qui rappelle malheureusement des épisodes sombres de l'histoire.
Ouais, c'est ce que faisaient les nazis. Hein, voilà. C'est exactement ça. Un mot ? Non ?
Non, mais on a toujours cru que le progrès et la connaissance aidant, et avec l'arrivée d'Internet, l'accès à un savoir évincerait la charlatanerie, l'esprit d'obscurantisme, de sorcellerie, etc. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont utilisés par des gourous par des escrocs aussi, parce qu'il y a souvent des questions d'argent derrière, pour
désinformer
et surtout pour embrigader les gens dans des mauvaises causes.
Ah, sachant que les gourous ont toujours existé, et qu'en fait, oui, ce qui est incroyable, c'est que
aujourd'hui, ils peuvent avoir une audience planétaire.
Les réseaux sociaux ont une capacité de démultiplier et de mettre à égalité la voix d'un charlatan avec la voix d'une ministre de la Santé ou d'un vrai scientifique.
Ouais.
Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que ça nivelle toutes les paroles au même niveau, et du coup, ce professeur Joyeux, je ne sais pas si on peut encore l'appeler professeur, en fait, ou professeur Foldingue, réalité, a une capacité d'attraction beaucoup plus large aujourd'hui, là où il y a encore 50 ou 80 ans, son aura de gourou serait resté à un cercle extrêmement réduit.
C'est une phrase d'Isaac Asimov, le grand auteur de science-fiction, qui dont mon ignorance vaut autant que ta connaissance, c'est un petit peu le...
Oui, mais n'oublions pas qu'ils n'existaient pas, ils existaient déjà, ces phénomènes, avec la télé...
Sauf qu'aujourd'hui, on a envie de croire, à mon avis, le point est
comprendre où on veut, qui peut avoir le dernier mot sur certaines thématiques comme celle de la médecine, par exemple.
Par exemple. Donc c'est une question de confiance, et comme il n'y a plus de confiance, c'est comme ça.
Crise de l'autorité,
mais dangereux, quoi. Dangereux. Acte 45, irez-vous manifester?
Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu les chiffres, c'est que c'est le moment clé, cette rentrée. Il y a eu un essoufflement constaté à la fois dans les sondages et à la fois sur le terrain, du nombre de gilets jaunes mobilisés. Aujourd'hui, on constate qu'il y a encore la moitié des employés et des ouvriers qui soutiennent le mouvement, même si le mouvement est moins soutenu aujourd'hui par les catégories supérieures. Aujourd'hui, il y a un grand soutien majoritaire par les catégories les plus populaires, un grand soutien aussi de la part de LFI, la France Insoumise et du Rassemblement National. Donc, c'est un premier enseignement à avoir en tête, c'est-à-dire que même si des flammes sont éteintes, comme même l'a reconnu le président de la République, en réalité, les braises sont encore là et le mouvement peut repartir de plus belle, parce qu'en réalité, les causes du mal-être n'ont pas été éteintes. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est à regarder de façon extrêmement attentive, qui est-ce que vous pensez, c'est une question qui est posée régulièrement, est-ce que vous pensez que le mouvement peut repartir? Et c'est décisif, parce que si les gens ont l'impression que le mouvement peut repartir, ils se mobiliseront. Si à l'inverse, ils ont l'impression que le mouvement est en train de s'étioler, ça ternit un petit peu la mobilisation. Et là, en l'occurrence, au sein des Français, c'est très partagé. C'est un sondage qui a été réalisé il n'y a pas longtemps. Et il y a quelques jours. Et en revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au sein des Gilets jaunes, il y a 84% des gens qui pensent que le mouvement va s'intensifier. Et donc, je pense que la mobilisation de ce week-end va effectivement s'avérer assez forte.
On y revient dans un instant. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Est-ce que vous avez le sentiment que le mouvement va reprendre? Et est-ce que vous êtes partant pour de nouvelles actions? On en parle avec vous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Le débat continue avec vous, donc acte 45, irez-vous manifester? Est-ce que vous pensez que le mouvement peut reprendre? Les sujets sont encore là, sont encore sur la table. Vous avez peut-être entendu le président de la République qui disait que le mouvement avait été une bonne chose, salutaire. 0826 300 300, Mathéo, vous avez entendu ce que disait Mathieu Chêne, vous irez manifester, vous êtes...
Je pense que j'irai
couvrir... Vous étiez dans les manifs, oui, vous avez couvert les manifs.
J'ai couvert les manifs, avec Nicolas Vidal, mon associé, le fondateur de Putsch, et justement demain matin on proposera à nos lecteurs aussi de suivre des lives avec des gilets jaunes qui seront dans notre rédaction, mais aussi des représentants de la police, et on a invité aussi des députés et des sénateurs aussi de la majorité. J'espère que quelqu'un acceptera, parce que c'est toujours important d'avoir du contradictoire. Ce sera des interviews avec des positions différentes. Ce que je pense, je ne connais pas avec précision les statistiques, les sondages, etc. Je pense qu'en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas dit son dernier mot, et il restera très actif aussi jusqu'à la fin du quinquennat. Mais parce que des problèmes restent, non seulement du point de vue économique, mais parce que on continue à ignorer que quelqu'un qui fait de la politique politique doit rendre compte. À mon avis, il y a cette problème, ce problème de base qui reste, parce que quand on voit, par exemple, que justement, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est objet d'une enquête judiciaire. Bien sûr, la présomption d'innocence est, il faut la respecter 100%. Mais se sentir autorisé à dire, bah moi, je reste de toute façon comme si n'est rien été.
Ça peut être incompréhensible. Je pense, justement, oui, la personne.
Parce que. Dans la vie normale de tout le monde, dès qu'on a un petit problème, une amende pour un stationnement interdit ou quelque chose de ce type, déjà on est jugé, on doit payer, on doit demander pardon quelque part. Et les hommes et les femmes politiques, on a l'impression qu'ils sont toujours dans une autre dimension. Et si à ça, on ajoute en plus le fait que les Français ne peuvent pas s'exprimer sur tout un tas d'arguments fondamentaux qui sont liés aussi à l'Union européenne, ben, pourquoi avoir peur de demander aux Français et aux autres peuples, si on parle d'Europe...
De la liberté d'expression.
Ouais. Ben. Mais... Vous êtes donc, vous dites le mouvement ne s'est jamais éteint sur Facebook. Sacha nous dit le mouvement tire à sa fin. Il n'y a qu'à regarder le nombre de gens qui manifestent. Il y a une prise de conscience qui a été relayée par des personnes peu crédibles. Du coup, gueuler pour gueuler, ça ne sert à rien. Beaucoup nous disent aussi qu'ils ne vont pas manifester parce qu'ils ont peur de la police. Abdoulaye Kant.
Ben, le souci, c'est que justement, on est entre deux eaux. Donc, si vous voulez, il y a des personnes qui eux ont envie de manifester. Et vous avez d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie de manifester. Et aujourd'hui, il faut voir que malheureusement, il y a plus de personnes qui n'ont pas du tout envie de manifester, mais qui ont juste envie de casser. Donc, qui est en train de nuire justement à ce mouvement, à ceux qui veulent pouvoir s'exprimer librement.
Alors, pourquoi la police ne fait rien ? On a la chance d'avoir un policier sur le plateau, donc je relaye les questions.
Non. On ne peut pas dire que la police ne fait rien.
Pourquoi la police n'arrête pas les casseurs, justement ?
Parce qu'on peut les identifier, hein.
Habillés en noir, cagoulés, avec des pavés, des sacs à dos masqués, ils sont identifiables quand même.
Disons que si vous voulez qu'ils ont maintenant des black blocs, si on parle d'eux, évidemment, de ceux qui veulent nuire à ce mouvement, s'adaptent aussi à nos techniques, s'adaptent aussi à une manière, ils infiltrent ces manifestations de manière, on va dire, ingénieuse, justement en mettant un gilet jaune et en se faisant passer pour des manifestants, or qu'en fait, il n'en est rien. Donc, ils ont toute possibilité de.
Quand on rappelait aussi qu'il y a eu des situations dans lesquelles la police a utilisé de façon disproportionnée la force, parce que moi j'aime bien que je suis pas contre les policiers.
Je trouve que vous savez, il y a toute transparence, on peut être quand même
sous pression,
se dire les choses.
Vous faites respecter l'ordre.
Il y a une question de surpression, c'est que quand vous êtes face à les manifestations 44 semaines qui se sont passées, c'est quelque chose d'inédit. C'est rarement en France on a eu ce genre de mauvement qui s'est multiplié. Je n'ai pas connu, mais bon, ça a dépassé loin de là cette situation. Aujourd'hui, vous avez des forces de police qui justement sont mobilisées. Il y a évidemment une certaine fatigue, parce que en dessous de l'uniforme, vous avez aussi des humains. Donc face aussi, quand vous avez confronté à une certaine violence, du coup, vous agissez en tant que policier, mais par moments aussi, excusez-nous aussi, on peut être humain. Donc peut-être sûrement il y a eu des disproportions dans nos actions. Mais après, de l'autre côté, le souci, c'est que il faut bien comprendre que quand vous avez face à vous des individus, et je parle bien, je ne remets pas en cause le mouvement des Gilets jaunes, mais vous avez des individus justement qui profitent de ce mouvement pour venir casser du flic. Ça, il faut le dire. Ça, je veux bien aussi entendre qu'il y a eu des blessés, c'est déplorable, mais par contre, il y a aussi des personnes qui n'ont aucune envie de manifester, qui veulent justement casser du flic.
Il y a même des syndicats qui ont invité à tuer du flic. Hein.
Oui.
Voilà, rappelant ça.
Malheureusement, c'est pas forcément les casseurs qui ont subi les violences les plus graves.
Oui.
Parce que les gens qui ont reçu un projectile dans l'œil, les gens
ces personnes-là se mélangent.
Moi, je voudrais qu'on revienne sur le cœur du sujet. Il est quand même là aussi.
Le cœur du sujet qui va être important pour la mobilisation, c'est la convergence.
Ouais.
Ce que redoute aujourd'hui le gouvernement, c'est la convergence, et notamment la convergence avec les questions des retraites. Alors, ça peut sembler incongru aujourd'hui, parce que quand on voit les gens qui sont mobilisés sur la question des retraites, il y a quelques professions types comme la RATP qui ont des régimes spéciaux et il y a également les avocats dont on imagine mal a priori qu'ils puissent manifester main dans la main avec les gilets jaunes. Néanmoins, pour les gilets jaunes et notamment pour ceux qui n'osaient plus manifester, notamment pour ceux qui ont 50, 60 ans, il y avait une grosse représentation de part de gilets jaunes qui étaient dans cette tranche d'âge. L'inquiétude liée à la question des retraites pour eux, mais aussi pour les enfants, peut donner un nouveau moteur qui va leur donner un étendard.
Ça concerne
parce
tout
que
le
moteur
sûr.
Essentiel qui avait été cassé, c'était de se dire, est-ce que le gouvernement va accéder à nos demandes financières?
Oui.
Au mois de décembre, des milliards ont été donnés, plusieurs milliards ont été donnés, trop ou trop peu, mais en tout cas, les gilets jaunes ont pris conscience qu'en réalité, il n'y aurait plus d'argent supplémentaire. Là, avec la question des retraites, peut y avoir un nouveau combat, une nouvelle bataille qui agrège différentes catégories qui réagrègent des gilets jaunes qui retrouveraient ici un moyen de gagner parce que c'est une bataille qui potentiellement à leurs yeux
mais juste
pas
la
finie.
Question juste alors, mais qu'est-ce que aujourd'hui quelles sont réellement les revendications des gilets jaunes parce que si vous voulez il y a eu une réponse entre parenthèses du gouvernement qui a été donnée peut-être pas assez ou peut-être assez mais aujourd'hui quelles sont les revendications
je parlerai pas alors, des revendications en tout cas il y a un sujet qui est le statu quo pour eux est mortel.
Ouais.
En toile de fond, vous avez le sentiment que votre situation va moins bien de jour en jour et de mois en mois, et que pour vos enfants, ça va aller moins bien parce que ils peuvent avoir fait des études sans trouver de job, ils peuvent se retrouver à ne pas avoir de job, ils peuvent se retrouver avec des emplois précaires là où les générations précédentes avaient des CDI, et donc le statu quo est mortel pour eux. Donc ils vont essayer d'une manière ou d'une autre de renverser la table.
On a Renaud de Rodez et je vous donne la parole après, Alexis. Renaud est en ligne avec nous, il attend depuis un petit moment. Bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Moi honnêtement, moi j'ai un peu peur pour ce week-end parce qu'évidemment on va y avoir des black box et évidemment que une partie des incidents qui risquent d'y avoir vont être mis sur le dos des gilets jaunes. Moi je ne vais pas manifester parce qu'honnêtement pour moi manifester tel que c'est fait là, ça sert à rien. Faut revenir à la base, sur les ronds-points, faire des blocages, etc. On était plus entendus. Là, j'entendais, oui, le gouvernement a lâché pas mal d'argent, etc. Honnêtement, ils n'ont pas lâché grand-chose au niveau du pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier qu'encore cet été, l'électricité a encore augmenté. Ça devient, pour ce que je pense, c'est que cet hiver, moi, je suis au tout électrique. Je ne vais pas mettre le chauffage, c'est pas possible. Quand je vois le prix de l'électricité, c'est impensable pour moi. Je vous le dis clairement. Alors entre ça, l'essence là, avec tout ce qui est en train de se passer par rapport au pétrole, on ne sait même pas si ça va augmenter ou pas au final. Là pour l'instant, il y a statu quo, mais on va voir.
Mais pourquoi vous n'allez pas manifester?
Pourquoi je ne vais pas manifester? Parce que pour moi, manifester comme ça dans la rue, ça ne donne rien. Les blocages donnent quelque chose. Et très honnêtement, quand je vois ce qui s'est passé avec les LDB, qui moi honnêtement, je ne comprends même pas qu'on ait mis ça dans les mains des forces de l'ordre, parce que je considère qu'il n'y a pas de... Ils ne sont pas assez entraînés par rapport à ça. Ils ont, je crois, 3 ou 4 entraînements à l'année pour se servir de cette arme-là. C'est pas suffisant pour moi. Il y a un gros risque.
Alors, c'est Alexis, pardon. Puis vous répondrez après sur cette question, parce qu'il y a aussi des internautes qui vous interpellent en disant on va vous montrer des images de CRS, vous allez voir, etc. Bon, d'abord Alexis.
Non, mais il se peut que la mobilisation. Que la mobilisation et le mouvement des Gilets jaunes s'étiolent un petit peu. C'est aussi lié probablement au différentiel de médiatisation qui, on voit bien, au bout d'un moment, les médias ont commencé à décrocher quand il y a eu les premiers chiffres de baisse de la mobilisation. Et donc, il y a un cycle un petit peu là d'affaiblissement du mouvement ou en tout cas de visibilité, puisqu'on en parle moins, on en entend moins parler. Mais ça ne veut pas dire que les sujets qu'ils ont posés, eux, ne sont plus présents dans la société française et qu'à un moment donné, bon, peut-être sur les retraites, peut-être sur la hausse du carburant, peut-être il y a quelque chose qui peut redémarrer. Après, est-ce que ça sera exactement le même mouvement qu'avant? Moi, l'histoire, elle se répète, mais elle prend souvent quand même des chemins de traverse, des chemins différents. Donc je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas loin de rentrer dans les livres d'histoire. Tel qu'il a été, il ne va pas se régénérer. On va pas partir, je pense, comme ça, sur le mouvement initial. En revanche, peut y avoir d'autres luttes, d'autres mouvements. Et à ce moment-là, on reverra peut-être les Gilets jaunes se réagréger à d'autres forces qui se mettraient en mouvement. Et surtout, je pense que les problèmes liés au pouvoir d'achat, le prix de l'essence, le prix des loyers...
Ça n'a pas changé. On entend
le coût de la vie. Le coût de la vie va rester une préoccupation majeure des Français.
Le 15 du mois, les frigos sont vides pour beaucoup de Français.
Je pense que les Français ne sont plus d'accord de laisser la carte blanche, de signer un chèque en blanc à n'importe quel homme ou femme politique. N'importe quel pour dire au niveau municipal, au niveau régional, au niveau national... et encore moins au niveau européen, tout simplement parce qu'ils disent, bah, très bien, maintenant, en plus, on est en 2019, on peut contrôler beaucoup de choses, avoir une perception au moins. Après, naturellement, il faut savoir, comment dire, faire la part des choses entre les fake news et les vraies informations. Mais je pense que les gens, désormais, sont beaucoup plus consciencieuses de ce qu'on pense. Et quand on revient aux gilets jaunes, moi, je pense que le mouvement va continuer sans doute. Il va évoluer aussi pour changer l'attitude vis-à-vis de la politique, parce qu'il y a eu tous ces faillites au niveau des listes pour les européennes, etc. Moi, je n'exclus pas que pour les municipales, il y aura des nouvelles surprises, plus structurées peut-être. Ah. Je ne sais pas si au niveau national ou dans certaines villes seulement, mais on verra. Aïe. Pour revenir seulement à la polémique sur la violence policière, je dis tout simplement une chose. Moi, encore une fois, je ne veux pas taper sur les policiers parce que j'estime qu'ils sont en train de faire leur travail, ça, oui.
Du mieux qu'on peut.
J'ai constaté tout simplement avec mes yeux qu'effectivement, il y avait des réactions très, très, très violentes et que la police de d'autres pays ne pourrait pas se permettre de faire. Et je rappelle aussi que les médias...
Ou inversement, on peut vous donner l'exemple de certains pays où la police serait encore plus violente.
Encore plus violente, tout à fait.
Les États-Unis,
Hong Kong, les médias, justement, glorifient la...
Les États-Unis, c'est compliqué.
Donc, je pense que ce serait faire une comparaison avec d'autres pays, chaque pays a sa problématique et chaque personne aussi a sa manière de manifester. Donc moi qui travaille un peu à l'international, donc j'observe beaucoup d'autres polices qui font du maintien de l'ordre, évidemment. Donc il y en a qui sont bien plus structurés et qui manifestent de manière, justement, ils peuvent exprimer leur colère d'une manière mais sans violence. Évidemment, quand la violence s'y invite, ils répondent aussi de leur manière, qui peuvent être choquantes aussi pour nous. Donc du coup, je pense que faire des comparaisons avec d'autres pays, c'est peut-être ce serait peut-être pas objectif. Mais par contre, oui, évidemment, il faut aussi savoir reconnaître.
La comparaison, mais il y a les médias, les grands médias qui parlent de Hong Kong et ils disent qu'on utilise la violence, etc. Oui, mais alors j'ai dit, quand moi j'ai interviewé.
Il faut faire très attention avec les comparaisons.
Un des contestataires de Hong Kong, il m'a dit, oui, effectivement, en France aussi, il y a eu une disproportion dans la réaction de la force d'ordre.
Alors, quelques réponses. Michael nous dit, je suis gilet jaune, j'ai l'impression que je suis un cobaye qu'on analyse. Un gilet jaune aurait été bien pour parler des gilets jaunes. Je crois que Mathéo vous avez couvert, mais vous avez soutenu le mouvement.
Je ne suis pas un gilet jaune, mais
vous pouvez être gilet jaune et journaliste.
Il y a des gilets
jaunes
qui sont devenus journalistes.
Vous pouvez appeler, vous avez la parole sur Sud Radio, je crois qu'on vous la donne beaucoup. J'ai un trou de mémoire, Jean-Luc Touly qui est là, qui est gilet jaune, donc on donne largement la parole sur Sud Radio, vous pouvez nous reprocher ça. Et quant à Pierre, je vous réponds directement, ma vie ne vous regarde pas et vous ne savez pas ce que les gens vivent ni quel est l'environnement, parce qu'il dit que je parle du frigo vide le 15 du mois mais qu'il ne croit pas que ça me soit arrivé. Vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne savez pas quelle est la famille, d'où on est issu, ce qu'on connaît, etc., ce qu'on fait dans la vie à côté.
La Sud Radio, les micros ne sont pas en or.
Donc vos reproches démagos, vous voulez garder. Voilà.
Le micro est en or.
Voilà, le micro est en or, absolument. On va marquer une petite pause et puis on va parler de État nounou ou pas, avec les 1000 jours l'État qui veut annoncer et peser sur les 1000 premiers jours des enfants. Vous, Mathieu, vous trouvez que c'est bien, donc on va en reparler avec vous.
L'État sur tous les fronts.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Alexis Bachelet qui continue de parler, ancien député PS, Mathieu Chaigne, directeur associé BVA Pôle Conseil, Mathéo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, et Abdoulaye Kanté, policier et membre de la CPJ, l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Donc le gouvernement veut mettre en place des mesures pour accompagner les parents dès le 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans et demi de l'enfant, pour lutter contre les inégalités de destin. Hier, c'est Adrien Taquet, donc le ministre secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, et Emmanuel Macron qui ont présenté à l'Élysée cette commission scientifique qui sera présidée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik. Et donc l'idée, c'est d'élaborer un plan pour les 1000 premiers jours de l'enfant. Moi, je pose la question, État nounou, à quoi ça sert une commission comme celle-là? On connaît tous les dysfonctionnements. J'ai vu Françoise Laborde et d'autres personnes qui sont impliquées dans la protection de l'enfance dire on connaît, on sait ce qui ne va pas. Pourquoi cette commission?
Non, mais la commission en elle-même, je suis d'accord avec vous, s'il s'agit uniquement de parler sans acte, pour des visées électoralistes ou marketing, ça ne sert à rien. Je pense qu'en toile de fond, il y a quand même un constat qui est partagé, c'est que ces 1000 premiers jours, finalement, sont décisifs pour la vie de l'enfant, mais sont des moments dans lesquels les parents peuvent se retrouver assez seuls. À la fois pendant la grossesse, à la fois, et je prends le cas de beaucoup de femmes qui reviennent de l'hôpital après la naissance et qui peuvent se retrouver assez seules. Et donc, tout dépend de l'entourage que vous allez pouvoir avoir.
Mais est-ce que c'est soit une question de milieu social ?
Bien sûr que c'est une question de milieu social. C'est une question aussi de territoire. On sait très bien qu'il y a des pédiatres qui sont plus accessibles, qui sont peut-être... Quelquefois, on a le sentiment qu'ils sont d'un meilleur niveau à Paris. Je pense que ce n'est pas vrai, mais c'est le sentiment qui peut être partagé. Il y a des PMI qui peuvent mieux marcher dans certains territoires que dans d'autres. Et tout ça, ça peut aboutir dans ces premières années qui sont décisives. Boris Cyrulnik le dit bien mieux que moi, mais c'est le moment où on crée...
Une erreur détectée très tôt peut être réparée.
Le cerveau est malléable. Il y a des millions de connexions neuronales qui se font, qui se forment. Et donc, c'est un moment où on peut apprendre plus ou moins facilement à s'exprimer. On peut apprendre plus ou moins à gérer ses émotions. Et quand on n'a pas l'entourage et quand on est dans des catégories sociales qui peuvent être quelquefois moins riches, moins diverses, qui peuvent fournir moins de conseils, oui, on peut être démuni. Et donc, je pense qu'il est essentiel de réfléchir, et le gouvernement fait bien, pour se dire, est-ce que nous avons mis tous les moyens, est-ce qu'il y a tout l'entourage qui est nécessaire pour ces familles dans ces moments essentiels ? La seule condition, il y a deux conditions. Le premier, c'est que oui, il y ait des moyens, c'est-à-dire qu'il y ait plus de places en crèche, qu'il y ait des centres de PMI qui ouvrent, que trois, moi je suis d'accord, il faut qu'il y ait aussi des lieux sur Internet qui soient des lieux de référence. Je vous prends juste un exemple qui est très personnel. Un enfant qui ne dort pas, on va regarder sur Internet. Bon, ben, on va trouver sur Doctissimo des gens qui donnent des grands likes parce qu'il y a une mère qui a expliqué que la meilleure technique à faire, c'est de foutre son enfant qui a quelques jours ou quelques mois devant la télé. Parce qu'en fait, ça l'hypnotise. Et comme ça, et ben, au bout d'un moment, il s'endort. Donc, au fait, il y a un nivellement de l'information et le gouvernement peut être un tiers de confiance auprès de qui on se réfère. Le seul préalable, c'est d'éviter le discours d'en haut, donneur de leçons, qui expliquerait aux parents qui ne savent pas élever leurs enfants.
Il y a la responsabilisation aussi à faire. À un moment donné, quand vous faites des enfants, vous vous responsabilisez. Et aussi, pour vous rejoindre, aussi, je pense aussi qu'à un moment donné, il y a aussi ce problème aussi social, donc notamment la désertification ou de certaines structures. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi un manque, mais criant, de place de crèche, parce que vous devez prévoir votre place de crèche bien avant la naissance de votre enfant, et souvent certains parents qui ne sont pas préparés à cela, ont certaines difficultés. Donc, on en parlait tout à l'heure, des commissions. Vous avez des commissions qui doivent statuer sur la possibilité d'avoir une place de crèche concernant votre enfant à venir, et je pense aussi qu'il y a certaines familles, peut-être notamment monoparentales, qui ne sont pas préparées à cela. Oui, je pense.
Mais en fait, j'ai du mal à comprendre, c'est. Où veut amener le gouvernement sur ce sujet-là ? Parce que la réalité, quand on est sur le terrain, c'est que dans la plupart des villes, c'est de plus en plus difficile de trouver un pédiatre.
C'est vrai.
Voilà, ça c'est concret. Voilà, il y a des communes où il n'y a plus de pédiatres, même dans des grandes communes. Donc effectivement, ça veut dire que le personnel, la médecine de ville ne fait pas son travail, et il y a un filet de sécurité qui peut aider les parents dans les premiers jours, les premières semaines. Deuxième filet, la PMI, protection maternelle infantile. C'est exactement ça. Les 1000 premiers jours, c'est la PMI. Dans mon département des Hauts-de-Seine, le département qui gère et finance les PMI ferme une par une les PMI, y compris dans les villes les plus populaires. Donc les PMI sont menacées. À un moment donné, est-ce que effectivement le gouvernement va faire en sorte qu'on reforme des pédiatres et créer les conditions pour qu'on trouve des pédiatres plus facilement, inciter les départements ou aider les départements à maintenir les PMI là où elles existent et peut-être à en réouvrir. Voilà, ça c'est du concret. C'est pas du blabla les 1000 premiers jours, c'est important.
Non,
oui, bien sûr, c'est
important. Mais si on est dans la com.
Je suis d'accord, c'est sur les actes. Non, mais il y a une commission qui va aboutir à les actes. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est une erreur de com majeure. Ils auraient dû arriver avec.
Un plan sur la table
en disant voilà ce qu'il faut faire pour les 1000 premiers jours et on a débloqué des moyens.
Ils savent exactement ce qu'il y a.
Et les places en crèche dont
il
a déjà été question il y a quelques mois, il y a eu un plan où il a été question. Ça dépend pas des villes, ça dépend des CAF financent, mais c'est les villes ou les départements qui créent les places en crèche.
On connaît les problèmes, on connaît les dysfonctionnements, on connaît les solutions.
C'est quoi
l'argent, la volonté politique. Donc de faire une commission d'experts qui va encore raconter
déjà,
ce qu'on sait déjà.
Déjà, je voudrais rappeler que, je suis un peu polémique, mais on n'est pas obligé de faire des enfants. Première chose, dans le sens que si on a des enfants, les parents doivent être responsable. Et la loi l'impose déjà, heureusement. Et,
mais vous ne pouvez pas empêcher des gens irresponsables de faire des enfants non plus.
Oui, naturellement, naturellement. Mais personne n'est obligé d'avoir des enfants, personnel. Première chose. Ouais. Et deuxième chose, pourquoi on doit dépenser de l'argent, je me pose cette question, pour avoir des experts qui nous disent quoi faire et qui nous jugent aussi, parce que c'est un peu comme l'histoire aussi de la fessée. On a fait des polémiques, des communications,
c'est la société actuelle,
alors
aujourd'hui.
Il y a des gens qui traitent beaucoup pire leurs enfants et qui ne leur donnent pas des fessées, mais qui...
On vous dit quoi faire. On vous déresponsabilise aujourd'hui.
Pourquoi ne pas destiner cet argent à la création des cabinets médicaux en Provence, par exemple, non seulement des pédiatres, mais sans doute aussi... Pardon, excusez-moi, ma nasale ne fonctionne pas. Oui. Mais je veux dire, il y a des urgences qui peuvent être traitées beaucoup plus, de façon beaucoup plus rapide et sans faire de la communication, parce que c'est que de la communication.
Mathieu ?
Non, mais je pense que de toute manière, si on n'investit pas sur les premières années, ça revient en boomerang. Si un enfant
investir qui... c'est une chose, mais enfants de la République,
bien sûr. C'est vrai que c'est pas simple, on a plusieurs auditeurs qui disent je comprends pas exactement de quoi il s'agit, et c'est en gros mettre un plan, rassembler des experts qui vont dire ce qu'il faut faire du quatrième mois de grossesse jusqu'à 2 ans et demi grosso modo pour bien élever son enfant. C'est quand même ça le truc.
Ils vont proposer différentes actions qui devraient être ensuite intégrées par le gouvernement avec des moyens à côté. Ils vont proposer des initiatives complémentaires. Je pense typiquement, ce qui pourrait être créé, c'est une plateforme pour les parents supportée par l'État.
C'est-à-dire des conseils dans le domaine de la nutrition,
exactement.
La prévention contre les perturbateurs endocriniens, l'exposition aux écrans, l'impact de l'arrivée de l'enfant sur le couple.
Enfin, et ce qui est vrai, c'est que c'est... ce sont des questions, en fait, ce sont des questions que tous les parents se posent. Il y a des sites...
Il y a un livre, ça s'appelle « J'élève mon enfant, Laurence Perrin ».
Oui, mais il y a plein de livres, il y a plein... Non, mais effectivement, et tout se joue avant 3 ans, il y a plein de bouquins. Il y a même « Être parent pour les nuls », je crois, qui a été, ou « Être père pour les nuls ».
Il y a même des initiatives, il y a des écoles des parents.
Mais je pense que l'État peut aussi avoir sa place, surtout s'il ne se... derrière, désaisit pas des questions financières qui sont
prises. Mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est un débat. Zazab nous dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit des parents donner un smartphone à un enfant dans une poussette ? Vous pouvez leur mettre toutes les applications.
Bah là, on a envie de donner une fessée aux parents.
Bah oui, mais c'est pour ça que. Voilà.
On déresponsabilise les parents.
N'importe quoi.
C'est que par ce genre d'initiative, je pense qu'à un moment donné aussi, c'est que, voilà, les parents, donc maintenant, écoutez, vous allez faire un enfant, on va vous expliquer comment élever votre enfant. Donc, dans ce cas-là, comme je rejoins notre ami, dans ce cas, faites pas d'enfant. Si vous n'êtes pas capable de vous responsabiliser.
Allez, merci à tous les quatre. À suivre André Bercoff. Merci à vous. À toutes. Très bonne journée sur Sud Radio.